Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'édition régionale du 19-20. Voici les titres de ce mercredi 10 mars. Un important site de stockage de données informatiques est parti en fumée cette nuit à Strasbourg. Il appartenait à l'entreprise OVH Cloud. Pas de blessés, mais de nombreux clients impactés dans le monde.
C'est un incendie spectaculaire qui a frappé le géant français de l'Internet OVH dans la banlieue de Strasbourg. Une catastrophe pour le groupe qui préparait son entrée en bourse. Une catastrophe aussi pour certains de ses clients qui hébergeaient leurs données dans ce gigantesque bâtiment aux allures de Lego géant et qui interroge sur l'avenir de la star de l'Internet tricolore. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Toute la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et disséquer un fait d'actualité et son impact sur le tissu économique et social. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment OVH va pouvoir renaître de ses cendres.
Nous sommes partis pour un dégagement de fumée à 1h30. Et en arrivant sur les lieux, le feu s'est rapidement propagé à la structure qu'on peut voir sur notre gauche, qui a fait une sorte de cheminée en fait.
Nous sommes le 10 mars 2021. La fatigue se lit derrière le masque du commandant des pompiers Damien Arrouet.
Ça a été un important foyer, aussi bien thermique que visuel. C'est un vrai feu qui a percé rapidement en toiture. Et ça a nécessité des moyens techniques pour arriver à bout. On arrive à 115 personnels sur place avec 44 engins.
Ces hommes ont lutté toute la nuit contre le feu qui a ravagé la ferme de serveurs du géant français du net OVH Cloud. Le matin, on pouvait encore voir les soldats du feu arroser à la pompe à eau la façade de l'immeuble. Fort heureusement, le sinistre n'a pas fait de victimes, mais c'est un énorme coup dur pour le groupe français, porte-voix et porte-étendard de la réussite française dans les nouvelles technologies.
Et avec nous ce soir, peut-être la licorne française la moins connue, OVH, comme on vous héberge, créé il y a maintenant 18 ans. Et avec nous donc ce soir, pendant un bon quart d'heure, Octave Klaba, bonsoir.
Bonsoir.
Octave Klaba, son fondateur, avait été nommé en 2017 entrepreneur de l'année par le cabinet EY. Florian Deb, vous êtes journaliste au service high-tech des Échos. Vous suivez depuis longtemps le parcours d'OVH. Mais d'abord, pour bien comprendre les conséquences de cet incendie sur l'entreprise, il faut rappeler le métier d'OVH.
OVH Cloud maintenant, parce qu'ils ont changé de nom il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont deux métiers principalement. Ils ont commencé il y a 22 ans avec un métier d'hébergeur. Vous créez un site web, vous avez besoin de puissance informatique pour que les données de votre site web soient hébergées et accessibles en ligne. Vous appelez OVH. Ils ont un deuxième métier qu'ils développent depuis quelques années, qui est le cloud. Le cloud, c'est louer un serveur à distance pour y installer non pas seulement un site web, mais aussi un logiciel. Et c'est surtout les entreprises qui ont recours à ces services d'hébergement de logiciels spécialisés souvent.
Le cloud, effectivement, c'est un marché très important. OVH, c'est une réussite française dans un métier qui est dominé aujourd'hui par les géants américains du net.
OVH Cloud, c'est un petit peu la plus belle histoire de la French Tech avant qu'on parle de French Tech. Parce que je vous disais, l'entreprise a 22 ans. Elle se positionne effectivement sur un métier très américain. Le géant mondial, c'est évidemment Amazon. Derrière, il y a Microsoft, il y a Google, il y a IBM qui sont très très agressifs sur ce marché-là, surtout Microsoft. Et OVH, c'est le champion européen du secteur, beaucoup plus petit que ne peut l'être un Amazon, mais ils ont quand même réussi à se tailler une part du marché. Ils commencent à rentrer dans les principaux index du secteur. Forrester, par exemple, le cabinet d'études de marché, les classe au numéro 8 mondial OVH par rapport aux autres. Alors évidemment, c'est loin des leaders, mais c'est déjà un très bon espoir.
Ouais, c'est déjà plus une start-up, hein, vous le disiez, mais une entreprise bien installée?
Oui, une entreprise qui a deux décennies, une entreprise qui est sur plusieurs sites. Ils ont des serveurs à Roubaix, la ville un petit peu totem de l'entreprise. Ils ont des serveurs à Strasbourg, ils ont des serveurs un peu partout dans le monde. Ils ont un siège social à Paris qui a ouvert il y a 2 ans maintenant. Ils préparent une introduction en bourse. Ce n'est pas évidemment la petite start-up qui vient de se lancer. C'est une belle ETI européenne qui a d'ailleurs des activités aux États-Unis également.
Aujourd'hui, le cloud représente plus de 70% du chiffre d'affaires du groupe, qui a réalisé en 2019 plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui visait encore récemment le milliard pour cette année. L'entreprise a été fondée en 1999 par Octave Klabat, dont la fortune est estimée à 2,4 milliards d'euros par le magazine Challenge. En 20 ans, cette société, qui emploie près de 2500 salariés, est devenue un emblème de la souveraineté française en matière numérique. Et ça valait bien un petit solo de guitare. Jeff Klabat sait aussi faire le show, comme ici lors de l'OVH Summit en 2016, où il était sur scène avec son CEO Laurent Allard à la basse, et dans cette reprise d'AC/DC, un groupe qui aura bien besoin de rester soudé alors que cet incendie a tout d'un autoroute pour l'enfer. Dans la nuit du 9 au 10 mars, un incendie s'est donc déclaré à minuit 47 dans l'un des 4 centres de données du site, baptisé SGB2. Quelques jours plus tard, Emmanuel Graland, enquêteur aux Échos, s'est rendu sur place pour mesurer les conséquences d'un tel sinistre. Voilà ce qu'il a vu.
Le bâtiment est plutôt dans un sale état. C'est vraiment frappant quand on arrive de loin. On voit vraiment les stigmates de l'incendie. On voit les traces de fumée noire, les parois fondues et trouées du bâtiment. Alors, il faut savoir que le bâtiment de Strasbourg d'OVH, il est divisé en 4 parties. Et l'incendie, il a entièrement détruit ce qu'on appelle Strasbourg 2, un des 4 data centers du site. Strasbourg 2, c'est grosso modo une tour auto-ventilée de 5 étages qui accueillait 14 000 serveurs et qui a été complètement détruite. Et à proximité, il y avait un deuxième data center qu'on appelle Strasbourg 1 et qui, lui, avait environ 3 000 serveurs, des serveurs qui étaient installés dans des conteneurs de marchandises transformés en salles machines. Et là-dedans, on a 4 salles sur 12 qui ont été sérieusement endommagées. Les 2 autres centres, ce qu'on appelle Strasbourg 3 et Strasbourg 4, eux, ils ont été indemnes, mais on les a quand même coupés, ils ont été mis à l'arrêt, parce que bien sûr, il fallait couper le courant, quoi.
Il y a une image, moi, qui m'a marqué dans le reportage diffusé par France 3 Alsace. On voit des camions de pompiers rentrer à la caserne. Leurs calandres et leurs roues sont chargés de neige carbonique et devant le bâtiment noir de suie, on peut voir une longue coulée blanche comme un congère. Emmanuel, c'était un incendie très spectaculaire.
Ça a été un incendie super spectaculaire. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu plus d'une centaine de sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur place avec plus d'une quarantaine d'engins anti-incendie de mobilisés. Et les flammes montaient à plus de 10 mètres de haut. Il faut se rendre compte que le bâtiment est lui-même situé dans le port autonome de Strasbourg, sur une espèce de petite péninsule, avec à droite une voie ferrée et ensuite le Rhin. Et à gauche, un bassin de déchargement. Et du coup, ils ont même utilisé un bateau-pompe de grande puissance pour asperger les bâtiments, éviter que l'incendie se propage de trop, et puis essayer d'éteindre l'incendie qui touchait Strasbourg 2.
Vous êtes retourné donc sur place, hein, vous nous racontez un peu cette scène presque d'apocalypse de ce qu'il reste. Quelle est l'ambiance aujourd'hui sur le site?
Alors, ce qui frappe, il y a 2 choses. Bon, il y a d'abord les stigmates de l'incendie, mais il y a aussi cette ambiance, cette espèce d'effervescence sur le site. Parce que quand on approche, on voit que le petit parking d'OVH Cloud, il est plein comme un œuf. Il y a plein de voitures. Et puis, faute de place, il y a plein d'autres véhicules qui sont garés en file indienne tout au long de la rue. Et C'est vraiment des véhicules qui viennent de partout, de toutes les régions de France, du Grand Est, mais aussi de Normandie, d'Occitanie, d'Île-de-France, de Bourgogne, vraiment de partout. Et on voit que pour faire redémarrer ces centres de données, ceux qui ont été épargnés par l'incendie, en fait, la boîte a vraiment fait venir des experts et des sous-traitants de partout. C'est vraiment une sorte de mobilisation générale avec grosso modo plus d'une centaine de personnes qui bossent sur place en rotation 24-24. On ne s'arrête pas et ça a une sorte de balai de blousons jaunes et noirs, casqués, qui vont et qui viennent sur cet ancien site ArcelorMittal. Et les gens s'arrêtent pas, quoi. C'est vraiment intense.
Le groupe essaye de minimiser au maximum les implications pour ses clients qui sont nombreux, justement. On a une idée de l'impact de cet incendie pour la clientèle d'OVH ?
L'impact pour la clientèle, il a été absolument majeur. Il faut se rendre compte que l'ensemble du site, quand même, ça hébergeait près de 30 000 serveurs. Donc la catastrophe, elle a touché de 12 000 à 16 000 clients, selon OVH. Mais comme certains clients sont eux-mêmes hébergeurs de sites, le nombre de sites web touchés par l'incendie, il est super important. Grosso modo, plus de 460 000 noms de domaines distincts et environ 3,6 millions de serveurs web liés à OVH Cloud. Tout ça, le lendemain de l'incendie, c'est-à-dire le 10-11 mars, tout ça, c'était inaccessible.
Presque 15 jours après le sinistre, que sait-on des causes de l'incendie ?
Grosso modo, on sait que l'incendie s'est déclenché à 0h47, donc dans l'un des quatre centres de données, Strasbourg 2. Et en fait, ce qui frappe, c'est que les équipes de surveillance sont arrivées sur place moins d'une minute après la détection du truc, mais déjà, en fait, elles ne pouvaient rien faire. Elles ne pouvaient plus intervenir sans mettre leur vie en danger. Donc rapidement, elles ont décidé d'évacuer et de faire appel aux pompiers. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce serait un onduleur, donc un appareil qui sert grosso modo à améliorer la qualité du courant fourni au serveur. Ça serait un onduleur qui serait en feu et qui serait sans doute à l'origine de l'incendie. Maintenant, l'explication de l'incendie, ça va être une histoire compliquée. Pourquoi ça va être compliqué ? Bon, ils avaient de l'ordre de 300 caméras de surveillance sur le site. Ils vont utiliser les images pour essayer de reconstituer l'origine de l'accident. Mais ça va prendre des mois. Et puis, là-dedans, il y a énormément de parties prenantes qui vont intervenir. Il faut savoir que là, actuellement, vous avez les experts des assurances qui sont là, des experts indépendants, les experts des sous-traitants, le BEA, des huissiers de justice et puis la police judiciaire. Parce que, en fait, chacun veut vraiment regarder ce qui se passe, contrôler les pièces, parce qu'il va y avoir ensuite un débat important sur quelles sont les responsabilités qui sont à l'origine de l'incendie et dans quelle proportion. Parce que l'onduleur qui était en feu, il faut savoir qu'il y a eu une intervention de maintenance sur cet onduleur le matin. Il a redémarré dans l'après-midi, tout semblait normal, et puis à minuit 47, c'est un des éléments qui aurait pris feu parmi les premiers. Mais bon, il faut savoir une chose, dans un incendie, ce que disent les experts, c'est qu'il n'y a jamais de raison unique. Un sinistre, c'est toujours le résultat d'une combinaison d'éléments. En général, il y a trois éléments. Un élément, c'est la conception du site. Deuxième élément, son entretien, sa maintenance. Et puis troisième élément, le facteur humain, c'est-à-dire un oubli, une erreur, un retard, des choses comme ça.
Oui, parce que dans votre enquête pour Les Échos, vous revenez aussi sur la façon dont OVH se distingue dans la construction de ces fermes de serveurs. Ils font quasiment tout eux-mêmes. Est-ce que ça peut être un problème d'installation lié à ce vieux site aussi industriel ?
Oui, tout à fait. OVH se distingue de l'ensemble de la profession parce qu'il privilégie le fait maison. C'est vraiment l'approche, l'ADN de la société. Ils font du fait maison dans le sens où ils fabriquent eux-mêmes leurs serveurs et ils font du fait maison parce qu'ils conçoivent aussi leur centre de données. Ce qui est une spécificité, vous avez d'autres acteurs type Amazon, Microsoft, Google qui vont passer par des prestataires qui sont spécialisés dans la conception, l'ingénierie et puis la mise en route et la maintenance des centres de données. Bon, l'incendie, ça a été un choc pour la profession, hein. Ça a été un choc parce que des départs d'incendie, ça arrive. Quand on a des onduleurs, quand on a des batteries dans un espace clos, ça arrive. Mais ce qui frappe les gens, c'est que par contre, la destruction complète d'un site, ça, c'est super rare. En 2018, Amazon a eu un centre de données au Japon qui a été bien détruit par un incendie. Mais à l'époque, le bâtiment, il était encore en construction. C'était pas un truc qui fonctionnait. Là, il y avait quand même tout le système qui était en route avec les prestations, les règles qui devaient faire en sorte que l'incendie ne se propage pas. Maintenant, la spécificité du site, c'est qu'effectivement, il y a par exemple eu des déclarations du commandant des sapeurs-pompiers qui disaient « Oui, un des problèmes de Strasbourg 2, c'est qu'il y a quand même du bois, il y a des planchers en bois. » Et ça, ben, ça propage l'incendie de manière assez forte. Donc ça, c'est des trucs qui ont un peu interrogé les professionnels, cette présence de bois, parce que en général, quand on fait un data center, on préfère s'appuyer sur une structure en béton avec toute une série de salles compartimentées pour éviter la propagation de l'incendie. Donc ça, ça interroge. C'est la rapidité de propagation de l'incendie qui interroge. À côté, Strasbourg 1, qui a été lui-même touché, a une conception encore différente parce que c'est des salles-machines qui sont installées dans des grands conteneurs de marchandises avec tout un tas d'équipements et qui sont posées les unes sur les autres. Chacune des quatre parties a une conception différente qui a évolué et avec des systèmes de détection et des systèmes d'extinction qui sont différentes. Une des interrogations des experts, c'était de se dire « Oui, mais alors, est-ce que le système de détection était bien ? Est-ce que les systèmes d'extinction étaient suffisamment performants ?» En début de semaine, le fondateur d'OVH, Octave Klaban, expliquait qu'il y avait des systèmes d'extinction qui variaient de façon énorme suivant la géographie du site. Il y avait des systèmes automatisés, il y avait des systèmes manuels, et ça dépendait dans quelle salle on se situait, etc. Pour faire simple, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, dans les centres de données, on a trois systèmes d'extinction qui existent. Vous avez des systèmes d'extinction par ce qu'on appelle des gaz inertes, un mélange d'azote et puis d'argon. Et on lâche ces gaz-là, ça absorbe l'oxygène et du coup, sans oxygène, l'incendie s'arrête. Vous avez ensuite une deuxième méthode, c'est des sprinklers. On arrose les machines avec de l'eau. Bon, l'inconvénient, c'est que ça abîme et après, vos serveurs ont de grandes chances d'être morts. Et puis, vous avez un troisième système qui est des brouillards d'eau. Ça, ça permet plus de contenir l'incendie que de vraiment l'éteindre. Mais c'est des fines particules, des fines gouttelettes d'eau. Et ça permet d'éviter la diffusion de l'incendie à l'ensemble du site.
Vous le disiez, il y avait beaucoup d'activités sur place hein, quand vous êtes allé voir hein, ce qu'il restait des bâtiments d'OVH, de ce centre de données. Que va-t-il se passer maintenant sur cet ancien site d'ArcelorMittal ? Que va pouvoir faire OVH ?
Là, grosso modo, on peut dire que les équipes d'OVH travaillent d'arrache-pied pour essayer de faire redémarrer ce qui peut l'être. Au début de l'incendie, grosso modo, il y avait Strasbourg 3 et Strasbourg 4 qui étaient viables et sur lesquels l'idée, c'est de redémarrer le plus possible pour servir les clients. Mais redémarrer, il faut se rendre compte, c'est une grosse galère. Hein. Il faut ce qu'on appelle réénergiser les salles, c'est-à-dire mettre de l'électricité, de la haute tension, de la basse tension, vérifier les onduleurs, vérifier les batteries, ensuite s'occuper du réseau, connecter aux fibres optiques, vérifier les serveurs, sachant que vous avez des défis qui sont considérables, qui sont que quand vous avez un incendie, la combustion du plastique fait que ça dégage des fumées chlorées. Et ces fumées chlorées, quand elles pénètrent dans un autre bâtiment, elles vont se déposer et le chlore, en fait, va attaquer les composants des autres machines. Du coup, aujourd'hui, sur un certain nombre de machines, on a OVH qui est obligé d'envoyer des serveurs au siège, à Roubaix, pour dépolluer les machines et ensuite les réinstaller dans d'autres centres de données à Roubaix ou à Gravelines. Donc là, on a vraiment un impact qui est conséquent. Et quand on discute avec des gens de la profession, enfin une des réactions des salariés, des gens qui connaissent ce type de problématique, c'est de se dire « Ouh là là, mais j'aimerais vraiment pas être à leur place parce que redémarrer l'ensemble d'un data center, gérer une situation pareille, c'est vraiment une grosse, grosse galère. »
Emmanuel, hein, c'est une catastrophe pour l'entreprise, vous le disiez, pour sa direction. Mais également pour les clients ?
Pour les clients, ça peut les plonger dans une situation extrêmement compliquée parce qu'il faut savoir que sur le bâtiment qui a été entièrement détruit, Strasbourg 2, OVH a expliqué que seuls 30% des clients avaient souscrit une option de backup. Autrement dit, beaucoup de gens risquent d'avoir perdu leurs données de manière définitive. Alors certains peuvent peut-être les retrouver parce que OVH, des fois, fait des sauvegardes internes pour son propre confort. Mais il se trouve que dans bien des cas, là, les sauvegardes internes étaient dans le même bâtiment que les données primaires. Du coup, il y a toute une série d'acteurs indépendants, de petites entreprises qui risquent de se retrouver dans une situation très compliquée si leurs données sont perdues de manière définitive. Et ça, ça risque de leur coûter cher.
Hello, last week I shared a video with details about our incident in Strasbourg, the fire that we had in the Strasbourg 2. And today I will give you more information about what happened from last week.
Depuis l'incendie, Octave Klaba ne ménage pas ses efforts. Il occupe même le terrain sur Twitter, où il publie de nombreuses vidéos d'explications en anglais à destination de ses clients. Comme ici dans cette vidéo publiée le 16 mars. Plus récemment, il communiquait sur le travail de restauration et de nettoyage du matériel informatique récupéré sur place. Un travail d'orfèvre. Florian Deb, je reviens vers vous. Pour les équipes d'OVH, pour sa direction, c'est un véritable traumatisme.
Il n'y a qu'à voir les cernes sous les yeux d'Octave Klaba dans les différentes vidéos qu'il a pu faire pour expliquer les dégâts à ses clients. Évidemment, la direction est sur le pont 24 sur 24, 7 jours sur 7 depuis que l'incendie s'est déclaré. Finalement, c'est un petit peu toute une vie entrepreneuriale qui ressort dans cet épisode. Octave Klaba a indiqué que c'était le pire jour de sa carrière au sein d'OVH. Le directeur général, Michel Paulin, est évidemment en lien constant avec les équipes et doit rassurer les clients qui, pour certains, ont perdu des données très importantes, des données qu'ils ne récupéreront jamais. Évidemment, pour l'entreprise, pour sa réputation et même pour la réputation des patrons, c'est un incendie regrettable et qu'il va falloir maintenant gérer.
On a une idée des pertes financières que cela pourrait entraîner pour l'entreprise ?
C'est un peu tôt encore pour avancer un chiffre. C'est sûr qu'il y en aura. Après, il faut raison garder. C'est un data center qui a brûlé. OVH en a une trentaine. Pour l'entreprise, ce ne sera pas gravissime en termes de pertes financières. C'est plus sur sa réputation, notamment parce que c'est le deuxième grand incident de ce genre en 4 ans que le problème est là.
Des départs d'incendie dans un data center, ça arrive, mais la destruction complète d'un site, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. C'est ce qu'un professionnel a indiqué à Emmanuel Gralland dans son enquête. Pour l'industrie du cloud, avec ses gigantesques fermes de serveurs qui sont un peu les disques durs de la planète Internet, ce qui arrive à OVH, c'est la pire crainte des entreprises du secteur.
Oui, le feu, c'est ce qu'il y a de pire dans un data center. Ça peut tout détruire, on l'a vu. Ça arrive, heureusement, très rarement. Il y a des systèmes de détection d'incendie, des systèmes d'extinction d'incendie très perfectionnés qui sont installés dans ce que j'appelle moi ces cathédrales des temps modernes, un petit peu les data centers. Et finalement, OVH, il leur arrive quelque chose de rarissime. C'était quasiment jamais arrivé. Le précédent qu'on cite maintenant, c'est Amazon au Japon qui, pendant la construction d'un de ses data centers, a dû lutter contre un incendie et les travaux ont été considérablement retardés. Mais un data center en fonctionnement qui brûle, c'est quasiment inédit.
Pour les clients d'OVH Cloud, les conséquences peuvent aussi être financièrement lourdes. Entre 12 000 et 16 000 clients entreprises ont donc été partiellement ou totalement affectés. Certains ont pu découvrir ou redécouvrir l'article 7.7 des conditions générales de vente qui prévoit l'incendie comme un cas de force majeure. L'entreprise s'exonère ainsi contractuellement de sa responsabilité dans ce cas.
Donc arrêtons un peu de toujours avoir l'espèce de fausse modestie française de dire que c'est mieux ailleurs. Non, nous avons aujourd'hui des entreprises extrêmement, et on peut faire une liste sur laquelle beaucoup de gens aimeraient avoir ces entreprises-là, et faisons-en la promotion.
En janvier dernier, Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, était interrogé sur BFM Business sur la souveraineté numérique européenne et il y vantait la qualité des entreprises européennes. Ce sinistre intervient alors que l'entreprise préparait le terrain depuis quelques semaines à une introduction en bourse. Cette opération, si elle devait se concrétiser, nous permettrait d'accélérer les investissements et d'accroître sa visibilité, son attractivité. Et quelle que soit l'issue de l'opération, Octave Klaba et sa famille resteraient actionnaire majoritaire. C'est ce qu'indiquait un porte-parole d'OVH Cloud à l'agence Reuters, très suivi dans les salles de marché. Florian, forcément, la question est sur toutes les lèvres. Quel impact ce sinistre va-t-il avoir sur la stratégie d'OVH et notamment sur son projet d'introduction en bourse ?
Pour l'instant, pas d'impact. La direction règle le problème à Strasbourg, s'occupe de ses clients notamment en priorité, et va, ce qu'ils disent en tout cas, dérouler sa stratégie pour la suite. Donc évidemment, l'introduction en bourse est toujours d'actualité. C'est pas pour tout de suite, hein. C'est un projet qui a été annoncé d'ailleurs quelques jours avant l'incendie, mais il y a encore du temps avant de voir OVH coté. L'incendie finalement pose un problème de réputation pour OVH. Ce sera évidemment une question qui se posera quand il va falloir valoriser l'actif d'OVH, mais en termes de stratégie, pour l'instant, rien ne change.
Quelles conséquences ça peut avoir également sur un projet dont on parle beaucoup, celui d'un cloud européen, le cloud informatique dans les nuages, comme on dit, ce cloud européen qui devait et qui pouvait notamment s'appuyer sur l'expertise d'OVH?
Alors, OVH est touché, OVH n'est pas coulé, évidemment. OVH reste de loin le plus grand acteur du cloud en Europe. Il reste un acteur indispensable à l'idée d'un cloud européen. Faut bien comprendre ce que c'est un cloud européen. Finalement, c'est surtout plusieurs acteurs du cloud européen qui se mettent d'accord pour respecter un certain nombre de règles et de valeurs respectueuses des données de leurs clients. Par opposition à, dit-on, le manque de confidentialité qu'il peut y avoir sur les serveurs américains. OVH est toujours un acteur leader. Ils ont une technologie qui leur est propre. Leurs concurrents européens en ont d'autres. Là encore, l'incendie ne devrait pas changer le positionnement d'OVH sur ce point-là. Évidemment, en termes de lutte contre les incendies, OVH va parfaire son dispositif et pourrait même faire progresser tout le monde, puisque, je le répète, l'incendie est rarissime dans le secteur et du coup, ça aurait pu arriver peut-être à d'autres gens aussi.
Oui, on voit bien aussi hein, pour les entreprises hein, ce que peut constituer la perte d'un certain nombre de données, le fait que, bah, que ça ne fonctionne plus, qu'on ait perdu des données là aussi très importantes pour les clients des clients, j'ai envie de dire. Et justement, l'urgence pour OVH, c'est de rassurer ses clients.
C'est en tout cas leur priorité. Évidemment, certains clients, notamment des sites e-commerce, ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus fonctionner parce que leur site est en panne en raison de l'incendie chez OVH. Pour certains clients, des copies des données sont disponibles, mais encore faut-il les retrouver. Il faut les rebrancher aussi, les reconnecter au site web. C'est beaucoup de travail. OVH doit le faire pour chacun de ses clients. Ils se sont engagés à répondre de façon personnelle à tous les clients. Donc c'est évidemment leur point numéro un en ce moment. Il faudra aussi rassurer sur le long terme parce que des questions se posent quand même sur l'architecture du bâtiment strasbourgeois. Par exemple, les planchers étaient en bois. Le bois, ça brûle beaucoup. Les systèmes de détection d'incendie, visiblement, n'ont pas fonctionné. En tout cas, n'ont pas fonctionné à temps pour que le feu puisse être maîtrisé. Tout ça, ce sont des questions structurelles, des questions qui se rapprochent d'ailleurs du modèle économique d'OVH qui est tout intégré. C'est comme ça que le présente l'entreprise. C'est-à-dire que OVH fait tout par lui-même plutôt que de se reposer sur des prestataires. Fait tout par lui-même et souvent dans une logique low cost pour amortir ses coûts. OVH n'a pas les moyens d'un Amazon ou d'un Microsoft. Et évidemment, quand on voit des pannes se succéder et aujourd'hui un incendie, on peut se poser la question de jusqu'où peut aller le modèle low cost dans ce secteur économique.
Florian Deb, qui faisait référence à ce qu'on avait appelé l'OVH Gate en 2017, la panne massive d'un centre de données du groupe qui avait bloqué de très nombreux sites en Europe. Les équipes du groupe avaient travaillé sans discontinuer pendant 48 heures pour réparer les services. L'impact de l'incendie de Strasbourg pourrait être plus long à effacer. Merci Florian Deb, merci aussi à Emmanuel Graland de la rédaction des Échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de La Story.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.